continue avec 1 Thessalonicien, puis on fera 2 Thessaloniciens. On va passer par le chapitre 2. Aujourd'hui, on va juste aller jusqu'au verset 16. Dimanche après, on va continuer avec une bonne partie du chapitre 3. Aujourd'hui, on va ouvrir nos Bibles à 1 Thessalonicien, chapitre 2. C'est important comment, je pense que vous avez eu votre exemple dans vos foyers, l'exemple que vous voyez de vos parents. Je ne sais pas si vous êtes né dans un foyer chrétien, peut-être pas, mais vous voyez vos parents, vous voyez votre père, votre mère, comment, quelle est sa conduite et tout. Et ça, il y a une répercussion sur nous, sur les enfants. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment l'apôtre Paul aussi a eu une influence sur ces chrétiens-là, des Thessaloniciens. Et surtout, avec la puissance du Saint-Esprit au milieu de cette Église-là. Mais je parlais de l'importance de notre témoignage, que ce soit comme parents, comme enfants aussi, où nous sommes aussi dans notre milieu, au travail, nous avons une influence. Quelqu'un a dit déjà qu'on est tous un modèle, on est tous un modèle, soit on est un bon modèle, soit un mauvais modèle, mais on est tous, quelque part, on témoigne, et je parle nous comme chrétiens. J'aimerais peut-être commencer, c'est un verset, quelques versets qui un peu nous parlent de ce qu'on va lire aujourd'hui, de ce qu'on va observer, de ce que la parole dit dans 1 Thessaloniciens, mais c'est le témoignage de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui mentionne trois aspects par rapport aux anciens, et c'est un peu lié à sa rencontre avec Jésus-Christ au bord de la mer, après sa résurrection, quand il dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Combien de fois il demande à Pierre ?
Trois fois,
hein? Et Pierre mentionne ici dans son épître trois aspects. Et je pense qu'il fait allusion, puis il a en arrière-plan cet entretien avec son Seigneur, avec son Sauveur. Et on peut peut-être lire à partir du verset 2, 1 Pierre 2. « Faites paître le troupeau qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. » Non en tyrannisant ce qui vous êtes confié, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Donc, l'apôtre Pierre exhorte les anciens à être des modèles et de prendre soin du troupeau. Mais je pense que comme principe, on peut l'appliquer aussi à nous comme frères et sœurs. Okay, on prend soin les uns les autres. Et on exhorte avec amour. Puis on essaie d'être des bons modèles pour notre frère et notre sœur. Et je parle ici d'une vie d'église. Donc on va continuer avec notre étude sur Thessaloniciens. Et pour faire un court résumé, c'est Thessalonique, de la région de la province de la Macédoine, où Paul fonde cette nouvelle église, jeune église, après quelques persécutions, après avoir fondé l'église de Philippe aussi. Donc, on va voir aujourd'hui 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 16. Donc, 16 versets, on va étudier. 1 Thessaloniciens 2, 1 à 16. Et puis, on verra deux aspects, de ces 16 versets. Comment Paul exerça son apostolat à Thessalonique, c'est-à-dire son appel au ministère, son ministère à Thessalonique comme apôtre, comme messager, comme envoyé de Dieu. Donc, comment l'apôtre Paul exerça son apostolat à Thessalonique, puis on va voir ça du verset 1 au verset 12, et comment les Thessaloniciens reçurent l'Évangile, du verset 13 au verset 16 de 1 Thessalonicien. C'est bon, deux choses, on va voir aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle église, à cette jeune église, et comment Paul exerça son apostolat au milieu, parmi les Thessaloniciens, et comment les Thessaloniciens reçurent l'évangile que Paul avait commencé déjà à proclamer à Thessalonique. En Thessalonique. Lisons, si vous avez votre Bible, ou si vous voulez lire ici sur l'écran, les deux premiers versets de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous savez vous-même, et ça là, vous le savez, frère, ça revient souvent, ça, dans cette épître-là, surtout 1 Thessaloniciens, ça revient souvent, ça, le fait comment Paul commente ou il dit par rapport à son apostolat parmi eux. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, encore, vous voyez, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens de combat. C'était pas facile, hein, l'arrivée de l'apôtre Paul à Thessalonique. Il venait d'être persécuté à Philippe. Et puis, il a même dû fuir de Philippe. Il est arrivé dans ces circonstances-là à Thessalonique pour fonder encore l'Église à cet endroit-là. Donc, il témoigne de la façon comment il arriva à Thessalonique. Ce verset nous situe historiquement et nous indique aussi l'atmosphère où se trouvait Paul quand il arriva à cette Église-là. L'apôtre Paul rappelle d'abord aux Thessaloniciens que son ministère apportait des fruits. Ok? Voyez là, si on fait rapidement, il est en train d'écrire cet épître-là à partir de, tout le monde s'entend à peu près pour dire qu'il était à Corinthe. Ok? Parce qu'après qu'il était à Thessalonique, il a dû fuir à Bérée. Ok? Et de Bérée, il a encore fui parce que les gens de Thessalonique, les Juifs, et il s'opposait à son ministère, donc il a été persécuté. Et puis les disciples ont dit, non, tu t'en vas, on va t'envoyer à Athènes. Donc il a fait un long chemin jusqu'à Athènes. Et puis de là, vous connaissez très bien, il a prêché sur l'Aréopage. Il y en a qui se sont convertis aussi, mais après il est allé à Corinthe. Et c'est là qu'il a fondé l'église à Corinthe. Il est resté à peu près un an et demi. Mais il travaillait fort aussi, il était aussi persécuté à Corinthe. Et de là, il a commencé à écrire aux Thessaloniciens, après l'arrivée de Timothée, parce que avant d'aller à Athènes, il a donné des ordres à Timothée et à Silas, peut-être pour aller voir les églises et aller voir comment les Thessaloniciens allaient. Donc, il attendait à Corinthe l'arrivée de Timothée. Et Timothée est arrivé à Corinthe et lui demande, on peut voir ça dans Actes, on a vu déjà, un peu ces passages-là, dans Actes à partir du chapitre 18 jusqu'à 22, il me semble. On peut voir tout ça. Et puis, Timothée arrive, j'imagine qu'il dit, bon, Paul, ça va bien à Thessalonique. Ça va bien, ils sont zélés pour l'Évangile, ils ont compris vraiment ce que tu avais parlé. Et il y a des petites choses qu'il faut peut-être corriger, mais Paul est encouragé de ça. Et Paul rappelle d'abord aux Thessaloniciens que son ministère avait porté des fruits. Donc il écrit en disant, en donnant des nouvelles de ce que Timothée lui avait dit. Donc il rappelle aussi qu'eux-mêmes étaient l'évidence vivante du succès de son œuvre, c'est-à-dire son ministère au milieu des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens savaient que sa visite n'était pas sans résultat. Ils étaient eux-mêmes convertis et une église avait été établi. Vous vous rappelez la semaine passée qu'on étudiait, il s'était converti de quoi, les Thessaloniciens? Paul a fait, témoigne de leur conversion, il dit, vous êtes convertis des idoles, c'est ça, des idoles pour servir notre Dieu vivant. Donc ils se sont convertis et puis Paul est en train d'écrire. Paul mentionne aussi des faits de son ministère, bien connu par le livre des Actes. Ce que je viens de mentionner tantôt, Actes 16, 22 et suivant. Et vous pouvez aller lire aussi Actes 17, 1 et suivant. Il mentionne en fait des faits de son ministère, son passage à Thessalonique. Persécuté, et même avant, parce qu'il était persécuté à partir de Philippe aussi. Persécuté, maltraité, et pas juste physiquement. J'imagine aussi qu'il y avait des outrages moraux, des injures par rapport à l'apôtre Paul. Peut-être il s'est moqué de lui. Déjà, on le voit à Athènes, hein, que les Athéniens, ils disaient, ils riaient quand ils parlaient de la résurrection. Puis là, il dit, hey, Paul, écoute, on va t'entendre une autre fois. Puis il part. Mais il y en a d'autres qui se convertissent. C'est moins, mais je pense que c'était plus fort en Thessalonique et en Philippe, la persécution. Et ça, c'est pour annoncer encore cet évangile qui lui suscitait de nouveaux adversaires. Au milieu des biens de combat, quand il mentionne cette phrase-là, au milieu des biens de combat. Ils ne sont pas laissés détournés de leur mission, c'est-à-dire les apôtres, quand ils étaient en Thessalonique. Nous avons trouvé en notre Dieu l'hardiesse de vous annoncer l'Évangile. Ils ont puisé leur détermination, non pas en eux-mêmes, mais en Dieu. Est-ce que vous avez votre Bible en 1 Thessaloniciens, verset 2? Qu'est-ce qui est écrit? Nous avons pris l'assurance, je pense. C'est écrit quoi? Pour vous annoncer. Mais en fait, quand on mentionne cette phrase-là, on pourrait dire, nous avons trouvé en Dieu l'hardiesse de vous annoncer l'Évangile de Dieu. Pas dans leur force, sinon ils ont cherché la force en Dieu pour annoncer cet Évangile. Oui, la version de Sommer, ah, c'est bon, ça nous donne, vous voyez là, un peu les effets historiques, toute l'assurance nécessaire. On est encore comment Paul exerça son apostolat à Thessalonique. Et nous allons encore continuer sur le verset 3 et 4. Nos exhortations ou encouragements, ou consolations, ça pourrait être traduit aussi, ne provient ni de l'erreur, ni des motifs impurs, ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve le cœur. Voilà les motifs qu'on voit. Ces versets font accent plutôt sur la motivation de l'apôtre Paul. Ni l'erreur, ni motif impur, ni de la ruse. À ces temps-là, il y avait des gens qui s'opposaient au ministère de Paul quand il était parti. Puis on le voit dans différentes lettres aussi, qu'il y en avait qui s'opposaient. Et puis ils disaient, c'est lui, c'est un charlatan, il est juste venu vendre son évangile. Il parlait mal aussi de l'apôtre Paul. Puis il est en train de leur écrire et dit, nos exhortations, l'évangile que nous avons parlé ne vient pas de l'erreur ni des motifs impurs. On va le voir encore, l'apôtre Paul utilise trois mots différents pour dire que son ministère était authentique. Son message n'était pas mensonger. Il était la vérité et non l'erreur. Ses motifs n'étaient pas impurs, mais au contraire, ils étaient purs. Sa méthode ne repassait pas sur la fraude ou la ruse. Elle n'était pas destinée à égarer ou à tromper, mais elle était honnête. Donc ces trois aspects-là par rapport au ministère de l'apôtre Paul au milieu des Thessaloniciens. Comme on le constate dans nombre de lettres, okay, l'apôtre Paul tente ici de jouer les attaques de quelques adversaires. Et si vous allez lire tous ces versets-là, peut-être on pourrait lire 2 Corinthiens 4, 2, quelqu'un qui pourrait lire 2 Corinthiens 4, 2 pour juste voir des exemples, quelle était la position de l'apôtre Paul qu'il y avait dans plusieurs églises. Et c'était semblable aussi en Thessalonique. Donc 2 Corinthiens 4, 2, peut-être aussi 2 Corinthiens 11, 9, quelqu'un d'autre qui pourrait lire. Mais pour commencer, 2 Corinthiens 4, 2, qu'est-ce qui est écrit?
Nous refusons les cacheteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu.
Il est semblable à ce qu'il est en train de vivre aussi en Thessalonique, en parlant en vérité. Et l'autre verset que je vous avais dit, 2 Corinthiens 11, 9. Galates 1, 10.
Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ.
Je pense que c'est clair. C'était quoi ce qui Paul, la façon comment Paul agissait envers les Thessaloniciens? Il veut se démarquer des charlatans, prédicateurs religieux, aux philosophes, généralement itinérants, dont l'existence à l'époque était bien attestée. Tous ces gens-là existaient à l'époque, des philosophes qui voulaient détourner ces nouveaux chrétiens des Thessaloniques. Et Paul écrit pour les encourager. Contrairement aux choses mauvaises dont il vient d'être fait mention, et Paul affirma aussi qu'il prêcha avec les meilleurs des motifs, reconnaissant que Dieu avait mis son cœur à l'épreuve. Il dit, Dieu nous a mis à l'épreuve, comme on vient de lire dans ce verset-là. Ce mot dénote que ces serviteurs de Dieu avaient été testés, déclarés compétents, et avaient reçu l'approbation divine. Et dans le cas de l'apôtre Paul, je pense que c'est clair pour nous. En conséquence, Paul n'essayait pas de plaire aux hommes, mais à celui qui l'avait envoyé. Et je pense qu'on a lu, tantôt Galates 1:10. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il ne cherchait pas plaire à Dieu. On vient de le lire. Et plutôt, les hommes, sinon plaire Dieu qu'il avait envoyé pour cette mission-là. Oui, parce que les Juifs, ils voyaient que... Mais d'ailleurs, ils voulaient le tuer aussi, des fois. Là, ils le persécutaient. Et puis, son témoignage il avait tellement aussi changé. D'ailleurs, Luc, il était connu comme Saul de Tarse. Et Luc mentionne que maintenant, il s'est appelé Paul. Mais il y en a qui peut-être le connaissaient. Et ils voulaient vraiment s'opposer à ce qu'il était en train de prêcher. Surtout les Juifs, là, qui voulaient vraiment garder la loi. Ils ne croyaient pas en Jésus-Christ comme le Messie. Donc, ils s'opposaient vraiment. Et non seulement eux, ils prenaient tous les gens alentour, comme on a vu dans le premier chapitre, des hommes mauvais pour causer des problèmes à l'apôtre Paul, à son ministère. Oui, à Éphèse, il a été persécuté. Oui.
Oui.
Non, il fuyait de lieu en lieu. Quand même, il y a eu des églises qui ont été fondées. La Syrie, comme on parle, dans Acte 18, au début de son 12e voyage. Mais ça a toujours été... Oui, la majorité a toujours opposition. Oui, surtout à Corinthe aussi. À Corinthe aussi, il y avait beaucoup d'opposition. À Thessalonique, peut-être les gens qui l'ont bien accueilli, je pense que c'était à Bérée, okay? Où les Juifs, étaient, la parole dit qu'ils étaient plus nobles que les Thessaloniciens. Mais quand même, ils ont été persécutés parce qu'ils étaient juste à côté. Donc, ils sont allés encore les persécuter, puis il a dû fuir à Athènes. Donc, on voit comment Paul exerça son apostolat thessalonique. L'apôtre Paul pouvait dire aux croyants de Thessalonique, si on veut résumer, paraphraser ce qu'il vient de dire. Et quand je suis arrivé chez vous, je n'avais aucun mobile caché. Je ne suis pas venu pour profiter de qui que ce soit, pour tondre les brebis et empocher la laine. Et je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et pour vous fortifier dans la foi. Voilà quelles étaient toutes mes motivations. Si on peut paraphraser ce qu'il vient d'être dit, il est en train de leur dire ça aux Thessaloniciens. Le souci de l'apôtre Paul était uniquement de plaire à son maître. Il le mentionne dans ce verset-là qui éprouve les cœurs, qui prouve les cœurs aussi, parce qu'il savait qu'il aurait des comptes à lui rendre. Et il mentionne dans 1 Timothée 1:11, il dit, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Cet évangile, il lui a été confié. Vous vous rappelez les circonstances, comment Paul a été appelé à prêcher cet évangile. Vous vous rappelez Acte 9, vous pouvez lire la conversion de l'apôtre Paul. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. J'aime ce verset. Chaque fois qu'on part pour évangéliser les mardis, et j'essaie de me les approprier. Malheur à moi si je n'évangélise. Ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui m'est imposée. Est-ce que pour moi, c'est vraiment une nécessité de pouvoir parler de cette bonne nouvelle? Est-ce que pour vous, c'est une nécessité vraiment de... Pas parce que c'était juste l'apôtre Paul. Vous n'allez pas me dire, « Bon, ben, c'est l'apôtre Paul. » Jésus s'est présenté devant lui. Et puis, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux, Paul? Pourquoi tu me cherches? Qu'est-ce que tu cherches? » Puis là, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et peut-être vous en avez dit, me dire ça, il a reçu l'apostolat. Mais, frères et sœurs, moi, vous avez été sauvés par Jésus-Christ. Vous avez une relation personnelle. Le Saint-Esprit est en vous. Il est en moi. De Jésus lui-même, oui. On est des témoins vivants pour Jésus-Christ. Allez, faites des disciples. Matthieu 28 aussi. Et donc, nous avons cette nécessité, si on peut dire, d'annoncer la bonne nouvelle. Malheur à moi si je n'évangélise. C'est fort ce mot-là. Hein? Pour l'apôtre Paul, il y avait vraiment un fardeau pour les âmes. Il est en train de écrire ça aux Thessaloniciens. Peut-être que les Thessaloniciens étaient découragés. C'est sûr que Paul a quitté Thessalonique d'une façon rapide. Okay? Il était persécuté. Il est resté peut-être, acte 18, il dit qu'il est resté 3 sabbats. Mais d'après ce qu'on va lire, plusieurs commentateurs ils disent que c'est pas, peut-être pas juste 3 sabbats. Il était resté peut-être 1, 2, même 3 mois. Okay? Pour avoir cette relation qu'il y avait avec les Thessaloniciens, je pense que 3 semaines, c'est rapide. 3 sabbats. Mais des fois, Luc aussi parle très rapidement pour raconter des événements. Et puis peut-être à la fin, quand il parle de ces 3 sabbats, il y a quand même un laps de temps qui s'est passé après que Paul est allé vers les Juifs et après il a commencé à évangéliser les gens de Thessalonique. Donc nous allons continuer. Versets 5 et 6. Jamais en effet, il dit, jamais en effet, vous le savez encore, vous voyez, vous le savez. Nous avons usé des paroles flatteuse, jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Donc il dit jamais en effet, vous le savez, il dit, nous avons usé des paroles flatteuses. C'est quoi les paroles flatteuses? Comment on traduit ça en bon québécois?
Flatter dans le bon sens.
Dans le sens du poil. Dans le sens du poil, oui, c'est ça. Jamais nous avons usé la cupidité, on va voir ça. Encore, l'accent de ces versets porte sur la motivation de l'apôtre Paul envers les Thessaloniciens. L'apôtre dit, jamais nous avons annoncé des doctrines qui flattent les penchants corrompus du cœur de l'homme. Motif intéressé ou qui se dissimule sous les apparences et des dévouements de la vérité, porter un masque au prêcher et pour s'attirer quelques gains personnels que ce soit. Oui, c'est ça, le gain personnel, c'est ça.
Ça,
ouais.
C'est la maladie de...
Un peu comme on a lu tantôt la première lecture qu'on a eue dans Pierre, là. Pas pour un gain sordide, volontairement. Puis en Pierre 5:2, en fait, mentionne ça. On ne va pas le lire parce qu'on l'a déjà lu tantôt. Et donc, C'est ça que j'allais dire. En plus, il dit la vérité. Il n'est pas en train de vouloir leur gagner avec un évangile un peu accommodant. On l'a vu ici, dans cette même classe-là, la session passée, la prospérité. On a étudié cet évangile-là. Pas que c'est un évangile, mais on l'appelle l'évangile de la prospérité. Il y a un seul évangile, comme je parlais avec ma sœur là, dimanche passé, Galate, il nous fait aussi, nous témoigne de ça, un seul évangile. Et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul en appelle pour les paroles et la conduite au témoignage des hommes. Il leur dit, vous le savez, vous l'avez vu, j'étais avec vous, comme vous le savez, pour les intentions du cœur au témoignage de Dieu même. Et on peut voir ça dans 1 Thessaloniciens 2:10. Il était tout à fait conscient que Dieu l'avait choisi, préparé et ordonné au ministère. On peut lire son témoignage dans Actes 9, 1 à 18. C'est assez long, mais vous avez, je pense que tous, lu déjà la conversion de l'apôtre Paul dans Actes. En Corinthiens 15, 10, Éphésiens 3, 8, et d'autres versets, vous pouvez aller consulter. En conséquence, il ne méritait pas la louange des hommes. Dans une autre épître, il écrit, ce n'est pas nous-mêmes, et c'est la version Semeur, ça, ce n'est pas nous-mêmes qui nous mettons en avant dans notre prédication. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Ça fait un peu écho au ministère de Jésus-Christ, hein, quand il dit, je ne suis pas venu pour être servi, sinon pour servir. Donc ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant de notre prédication, et l'apôtre Paul mentionne. L'expression à la fin du verset 6, comme apôtre de Christ, nous aurions pu nous imposer. Littéralement, nous pouvons lire aussi ayant le pouvoir d'être en poids, comme apôtre de Christ. Ce mot peut signifier être la charge, en charge de l'Église, et pourvoir à la subsistance des serviteurs de Dieu. On peut voir ça dans Luc aussi, et en Corinthiens, et Timothée, l'ouvrier est digne de son salaire, mais plusieurs interprètes adoptent ce sens à cause de 1 Thessaloniciens 2:9 aussi, là où il mentionne le verbe être en charge est dérivé de ce même mot. Mais cette expression aussi signifie être aussi en honneur, en autorité en fait. Ce dernier sens est préférable à cause du contexte immédiat quand il mentionne et il ne cherche pas la gloire qui vient des hommes, même s'il pouvait exercer son autorité. Parce qu'il était l'apôtre de Christ. Même s'il pouvait exercer autorité sur eux, il ne cherchait pas leur gloire, la gloire d'eux. Mais nous avons été pleins de douceur. Mais ça pourrait, pardon mes frères, mais ça pourrait aussi signifier le fait aussi d'être en charge, soutenir l'apôtre Paul, mais aussi ce fait qu'il mentionne aussi. Être en autorité envers eux parce qu'il était l'apôtre que Dieu avait choisi pour annoncer l'évangile parmi les païens. D'accord aussi quand on dit l'autorité, pas l'autorité comme on connaît, l'autorité spirituelle. Un peu quand on a lu le premier verset, apôtre Paul écrit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 2, c'est ce genre d'autorité sur le troupeau qui, ça veut dire, oui, avoir autorité spirituelle aussi, mais être quoi? Être modèle du troupeau. Donc, une autorité spirituelle, si on peut dire. Mais, est-ce que j'ai déjà lu ça? Mais nous avons été pleins de douceur. Ouais, non, j'ai pas encore lu. J'aime beaucoup ces deux versets, là où l'apôtre Paul exprime de façon très imagée comment il était parmi eux là. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin des enfants, de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous étiez devenus chers. Est-ce que ça prend 3 semaines pour ça là? C'est dur. Oui, ça se peut, oui. Mais
passage,
ça se peut.
Le passage,
oui. Oui.
Ça ne dit pas qu'il est resté là 3 semaines, c'était 3 semaines.
3 sabbats.
Avant qu'il y ait quelque chose.
3 sabbats.
C'est
acte 18, 20, à partir de 38 ou 22, je pense. Entre 22 et 38, il me semble. Mais Paul a prêché au milieu des Thessaloniciens pendant 3 sabbats, écrit Luc.
Même qu'il ait passé 3 sabbats ou 3 ans, c'est pas grave, il dit qu'il
est... Oui, mais on voit clairement la tendresse, l'amour qu'il a, comme une mère prend soin de ses enfants. Et c'est une des rares fois que l'apôtre Paul s'exprime comme ça d'une église. Là. Il utilise vraiment l'aspect d'une mère quand il dit désirer. Non, c'est pas l'apôtre Paul.
Qu'elle nourrit. Dans la version sommaire, il rajoute qu'elle nourrit.
Nourrit. OK. Je suis en train de supporter les douleurs de l'enfantement quand dit Paul au Galates. C'est un peu une image d'une mère. Mais c'est là, ça veut dire la tendresse, l'amour qu'il a pour église là, et il dit non seulement vous donner l'évangile, sino nos propres vies. Il aimait tellement ces Thessaloniciens là qu'il il leur dit ça. Mais encore, nos propres temps, vous étiez devenus chers pour nous. C'est un bel témoignage d'amour envers envers cette église là. Et je pense que cette église là a vu cet amour de l'apôtre Paul envers eux pendant le temps qu'il a passé avec eux. Et ce qui caractérise, on l'a vu dans le premier chapitre, cette église, c'est quoi? L'amour, en fait. Beaucoup. Si vous lisez l'apôtre, le chapitre 1, là, on voit vraiment que cette église-là est caractérisée pour l'amour les uns les autres. C'est le bon exemple, en fait, que l'apôtre Paul, pas seulement l'apôtre Paul, Paul, Silas, Timothée aussi, qui était parmi eux. Et Paul, je sais que c'est l'apôtre Paul aussi, mais Paul mentionne aussi les autres qui étaient avec eux. Ces versets portent sur sa conduite parmi eux. Au lieu de régner en Seigneur sous l'héritage de Dieu, il était plein de douceur au milieu d'eux. Comme une mère prend soin de ses enfants, ce qui est bien en harmonie avec cette belle et touchante image qui signifie proprement une nourrice qui réchauffe sur son sein ses propres enfants. C'est un peu l'expression que c'est un peu emprunté aussi de l'Ancien Testament, hein, quand Dieu prend soin de son peuple d'Israël. Les psaumes, on peut voir aussi cette image là d'une mère. Paul et ses compagnons avaient soin de leurs enfants spirituels. Et là, je mentionne bien Paul et ses compagnons avaient soin de leurs enfants spirituels. Pas spirituels. Mais spirituel peut donner plus d'emphase, là.
C'était spécial.
C'est de telles affections que l'apôtre fut rempli envers ses frères de Thessalonique. Et il le déclare qu'il était prêt à donner sa propre vie pour leur bien, parce qu'il était devenu ses bien-aimés. Il faut se rappeler aussi sans cesse, quiconque veut être mis au nombre des vrais bergers doit aimer les âmes. C'est Calvin qui prononce ces mots-là. Il faut se le rappeler sans cesse. Quiconque veut être mis au nombre des vrais bergers doit aimer les âmes comme Paul les a aimées, de sorte que le salut de l'Église lui soit plus précieux que sa propre vie. En fait, c'est un témoignage de Calvin qui parle par rapport à ce verset-là. Vous vous rappelez, frères, on continue, 9 à 10 dans chapitre 2. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Encore là, un témoignage de la conduite de l'apôtre Paul parmi eux, là. Vous vous rappelez de notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge, à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. C'est tout un témoignage pour dire ça, surtout la dernière partie, que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et même irréprochable envers vous qui croyez. Et donc, il le rappelle encore, vous vous rappelez, frère, notre travail. Ainsi agissait l'apôtre envers les chrétiens. Aussi à Corinthe, aussi en Corinthiens, on peut lire ces versets-là. Tous ces versets, 2 Corinthe 11, 9, 12, 14. D'autres fois, cependant, il acceptait des églises ce qu'il fallait pour sa subsistance aussi. Des fois, Paul aussi recevait de l'aide. Dans 2 Corinthiens 11, 8, on peut voir dans Philippiens aussi et autres versets. Dans l'une ou l'autre manière d'agir, l'apôtre Paul était conduit par des motifs de prudence chrétienne et par l'amour à ces âmes-là. On peut aller voir peut-être Actes 20, 33 et 35. Actes 20, 33 et 35. Ça nous témoigne du cœur de l'apôtre Paul. Et des intentions. Là. Actes 20, 33 à 35. Quelqu'un qui pourrait les lire, s'il vous plaît?
Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Cela dit, il se mit à...
OK, c'est bon. Jusqu'à 35, merci. Vous vous rappelez, c'est où ça? C'est quand il dit au revoir aux frères de l'église d'Éphèse, je pense. Et puis là, ils sont à genoux pour prier, là. Mais on voit le cœur de l'apôtre Paul. Il dit, je ne désirais ni l'argent, ni l'heure, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que c'est mes mains, c'est ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins. Et c'est de mes compagnons aussi. Et tout ce que j'ai montré, qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles. Mais non seulement il travaillait pour lui, pour se soutenir, mais aussi pour soutenir les faibles. Tout un témoignage de l'apôtre Paul. Ça dénote vraiment l'intention de son cœur. Cet épître témoigne aussi clairement de sa mission comme apôtre. En Thessaloniciens 2:2, on l'a juste dans ces chapitres-là, on voit trois fois cette expression de l'apôtre Paul. Nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu dans 1 Thessaloniciens 2:2. Dans le même chapitre, nous vous avons donné l'évangile de Dieu. Annoncer l'évangile, nous vous avons donné l'évangile de Dieu. Et ce qu'on vient de lire, nous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable en vous qui croyez. C'était le but vraiment de l'apôtre Paul d'annoncer cet évangile de Dieu. Pas son évangile comme on l'a vu la semaine passée, l'évangile qui vient de Dieu. Envers ses Thessaloniciens. Et c'était partout, à toutes les églises où il allait, de façon irréprochable. On a le droit de parler ainsi quand on peut en prendre en témoin Dieu et les hommes, de façon irréprochable. Et c'est là un puissant témoignage en faveur de l'Évangile que l'apôtre Paul prêchait. Les Thessaloniciens avaient assez de discernement pour juger de sa vie. C'est vrai, il était parmi eux. Et Paul a vécu avec eux. Il pouvait en témoigner de la conduite de Paul parmi eux. Donc c'est pour ça qu'il pouvait dire, nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable. En vous, envers vous, les croyants. Vous savez aussi que nous avons été, versets 11 et 12, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père. Tantôt on voyait l'aspect d'une mère, ok, et encore là, c'est aussi... Et l'aspect d'un père pour ses enfants. Et nous vous avons exhorté, c'est un peu les caractéristiques d'un père. Nous vous avons exhorté, consolé, à durer, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Plusieurs fois aussi dans ces épîtres-là, Paul utilise aussi l'image d'un père. Est-ce que vous vous rappelez de quelques exemples où Paul utilise un peu l'image d'un père? Puis on le voit maintenant pour l'Église, en fait. Mais je pense qu'il parle de Timothée aussi. Oui, à Timothée, comme son fils. Et si vous lisez Philémon, on voit aussi un témoignage de l'apôtre Paul. Il dit, lui, mes entrailles, il dit, il fait partie de moi. Et il va encore plus loin, là. Il fait partie même de moi. Il appelle aussi son enfant. Donc, puis on voit maintenant ces sentiments vers cette église-là, comme un père. L'amour de Paul pour les Thessaloniciens était aussi tendre que celui d'une mère pour ses jeunes enfants et aussi profond que celui d'un père qui encourage, réconforte, stimule ses enfants. Deux aspects. Le mot « enfant » met l'accent sur les maturités des croyants et de même sur l'affection aussi. Les enfants. Ces enfants. Le plus fort de tout, stimulant pour mener une vie sainte, leur est proposé. Il vous appelle à sa gloire. À sa gloire. Le royaume de Dieu, et il dit par rapport au royaume de Dieu, il vous appelle à sa gloire. Par la foi, les Thessaloniciens étaient déjà entrés dans le royaume de Dieu, mais la révélation de sa pleine gloire appartenait un jour encore dans le futur. Il mentionne deux aspects du royaume de Dieu, d'être chrétien, d'être sauvé. Non seulement dans le chapitre 1, il dit, je suis sûr que vous êtes élus, vous êtes sauvés, mais là, il leur dit, vous appartenez maintenant au royaume de Dieu et il va se révéler en pleine gloire, encore dans le futur. Cependant, étant déjà hérité pour cette gloire, il devait se conduire en conséquence. C'est pour ça qu'il les exhorte à démarcher d'une manière digne de l'enfant du royaume. Là, on a fini avec l'aspect comment Paul exerça son apostolat, son ministère au milieu des Thessaloniciens. Mais là, on va voir l'aspect comment les Thessaloniciens reçurent l'Évangile. Vers 10h10, frères et sœurs, vous allez sentir comment on appelle ça là?
Un buzz.
Faites attention. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu et qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme quoi? Comme elle est vraiment la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est de cette façon que les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu. Comme la parole, pas comme la parole de Paul, l'apôtre Paul, mais la parole qui vient de Dieu. Paul remercie d'avoir permis que le travail acharné de son équipe, Paul, Silas et autres disciples aussi, n'était pas en vain, car les Thessaloniciens ont accueilli le message qui leur était prêché comme étant vraiment la parole qui venait de Dieu. Ils ont tellement bien montré les fruits, ils ont devenu un exemple pour les autres, c'est-à-dire les Thessaloniciens. La parole semée à Thessalonique est tombée dans une bonne terre. Puis on l'a vu dans le premier chapitre aussi, l'impact qu'il y avait et cette église-là envers les autres, avec les voisins. Mais il dit, je n'ai pas besoin de parler là, parce que votre témoignage, c'est partout là. Et même, il dit, on n'a pas besoin de parler à cause de votre amour, à cause de l'amour qu'il y a entre vous. En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus, les églises de Dieu en Christ Jésus, qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, c'est qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Et Paul est en train de comparer de la façon comment ils ont reçu l'Évangile un peu aux églises de la Judée, ok? Au début de son ministère. Au premier siècle, la Judée était une province romaine, un peu comme la Macédoine, sauf que la Macédoine est au nord-ouest de l'Empire romain. La Judée est au sud, était une province romaine de la première région où une assemblée chrétienne fut implantée, c'est-à-dire l'Église à Jérusalem, qui fit ce début le jour des Pentecôtes. Et vous avez vu après, dans Acte 2, après qu'ils ont été aussi persécutés. Suite à des persécutions par les Juifs, les croyants s'est dispersés tout en proclamant la bonne nouvelle. Dans Acte 8, 4, on pouvait lire ça, qu'ils se sont éparpillés partout et puis prêcher la bonne nouvelle. Comment? De quelle façon? Avec assurance, mentionne Acte 8, 4. Et c'est aussi que d'autres assemblées vire le jour. Et Paul est en train de comparer la façon comment ils ont reçu l'Évangile. Paul les appelle les églises des dieux en Judée qui appartiennent à Jésus-Christ. Ils appartiennent pas à Paul. Vous rappelez quand Paul dit, là, est-ce que c'est moi qui est mort pour vous? Pourquoi vous dites que c'est l'église de Paul ou de Silas? Non, il dit c'est l'église des dieux, l'église de Jésus-Christ, appartient à Jésus, soulignant aussi deux caractéristiques uniques ou véritables églises. Elles sont une origine divine et appartiennent à Christ. Acte 20, 28, quelqu'un qui pourrait le lire, Acte 20, 28. L'Église sont des natures divines, une origine divine et appartient à Christ.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang.
L'Église de Dieu par le Saint-Esprit qui s'est acquise pour son propre sang. L'Église appartient à Christ. Ça, c'est justement l'Église d'Éphèse. Tout comme les églises des Judées subirent des attaques répétées des Juifs, les Thessaloniciens étaient persécutés à la fois par les Juifs et les païens. C'est pour ça qu'il dit vos compatriotes, c'est-à-dire pas seulement les Juifs, mais aussi les païens aussi. Ils ont eu la persécution. Lisons Actes 17, 5 à 7.
Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques hommes de rien parmi la populace et provoquèrent des attroupements ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas, alors ils traînèrent Jason et d'autres et quelques frères devant les magistrats en criant « Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici et Jason les a reçus. »
C'est à Thessalonique que ça arrive. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques hommes de rien, c'est-à-dire quelques hommes de la populace, quelques hommes méchants, pas juste les Juifs, là, aussi, leurs compatriotes, et ils provoquèrent des attroupements. Et on a lu la suite. Donc, Paul et ses compagnons quittèrent la ville, mais les persécutions continuent de plus belle en Thessalonique, là. Ils continuent encore les persécutions envers ces nouveaux chrétiens. Et donc, Paul est obligé à quitter. Il n'a pas arrêté cette persécution. Cette persécution n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu non plus. En fait, la persécution de cette jeune église prouvait l'authenticité de la foi de ses membres-là. Le témoignage de l'apôtre Paul envers cette église-là était fort. Puis cette église a continué. Ils ont suivi le modèle de l'apôtre Paul. Ce sont eux, et là, Paul est en train de parler des Juifs, du verset 15 à 16, ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Là, il est en train vraiment de parler des Juifs. C'est pour ça qu'ils s'est aimés. Oui, et je pense que dans le livre des Actes aussi, Pierre, il parle aussi à ces Juifs-là, en parlant du Seigneur qu'il avait fait tuer. C'est Jésus qui vous avait crucifié. Ce sont eux, mais là, c'est le tour de l'apôtre Paul, faire ce témoignage par rapport à ses anciens compatriotes. Oh, ben, ces compatriotes, c'est vraiment leur frère qui l'appelle des fois, dans les autres épîtres, les Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Et les prophètes qui nous ont persécutés, il parle d'eux là maintenant, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Tout un témoignage. Je pense que ça a été dur pour l'apôtre Paul écrire ces mots-là par rapport à ses frères, que des fois il les appelle, qu'il avait aussi il y avait aussi le fardeau pour qu'il puisse se convertir. Même il dit dans une épître, je pense qu'il dit, je donnerais même ma vie pour que mes frères puissent connaître et arriver à la connaissance de Jésus-Christ. Mais là, il écrit, c'est eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés. Mais la colère, la colère a fini pour les atteindre. Mais de quelle façon il a fini pour les atteindre? L'apôtre Paul accuse les Juifs de 5 méfaits spécifiques. Avoir tué Jésus et les prophètes. On peut le voir ça dans Actes 2, 36 aussi, de ce qu'on parlait tantôt, le témoignage de l'apôtre Paul. De persécuter Paul et ses compagnons, Pâtre Pierre, merci mon frère. Et de plaire à Dieu aussi, il les accuse de déplaire à Dieu. Être les ennemis du peuple, et tous les hommes même. Faire obstacle à l'évangélisation, comme on l'a vu tantôt. Le jugement de Dieu qui est tombé sur les Juifs incrédules et désobéissants peut avoir été leur endurcissement qui les a empêchés de croire ce que Paul leur annoncer. Ces jugements, là, quand il parle de dernière phrase, là, ça pourrait être celle qui est tombée sur les Juifs. D'un point de vue spirituel, il existe un jugement qui concerne tous les hommes, pas juste les Juifs, et c'est aussi les Juifs et les païens. Il s'agit de la colère éternelle de Dieu contre ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur. Ce châtiment est déjà arrêté, et donc absolument certain, en fait déjà accompli, comme le dit l'apôtre Jean dans Jean 3, 18, et aussi le verset 36. Jean 3, 18, tout de suite après Jean 3, 16.
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Wow! Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà quoi? Est déjà jugé. Parce qu'il quoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique du Dieu, c'est-à-dire il n'a pas cru en Jésus-Christ comme mon sauveur. Et de cela que l'apôtre Paul est en train de parler par rapport à ces Juifs-là. À titre de conclusion, en fait, c'est Dieu qui nous donne l'assurance pour annoncer l'Évangile. Amen. J'ai trouvé l'assurance en Dieu pour vous annoncer, dit l'Évangile. Quand Paul était persécuté, il vient d'être de Philippe, persécuté, frappé, puis il trouvait son assurance en lui. Dans Corinthe, il dit, et même, Dieu, Jésus même lui a dit, là, et, Paul, ne sois pas découragé, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, mais parle, je vais être avec toi, parle. Donc il a trouvé l'assurance en Dieu pour annoncer cet évangile-là. Je ne sais pas, au milieu de vos travails, dans votre entourage, peut-être l'ambiance est difficile, je ne sais pas. Peut-être vous voulez parler, mais on vous a interdit même de dire quelque chose. Mais c'est en Dieu qu'il se trouve cette assurance-là de pouvoir. Même au milieu... Aïe, aïe, aïe. On va le changer. Il faut qu'on change son direct. Même au milieu de notre famille aussi, des fois. On est persécuté même. Je me rappelle quand je me suis converti, mon père m'avait dit, si tu t'es fait baptiser, là, t'es plus mon fils presque. J'avais quoi, 10, 20 ans? J'avais pris ça très dur. Et puis, mais je me suis fait baptiser pareil. Puis, mon père après est allé à l'église avec moi-même. Mais, on se sent des fois persécuté, mais l'assurance vient de Dieu pour annoncer l'Évangile. Oui, mon frère.
Oui, on voit dans la vie de Paul aussi ce que Dieu a dit, il le fait.
Oui, était d'annoncer l'Évangile, oui. Annoncer l'Évangile est agréable à Dieu, frères et sœurs. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Annoncer les dieux... est agréable, annoncer l'Évangile est agréable à Dieu. Nous qui avons reçu cette bonne nouvelle de l'Évangile, devons marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. La parole de Dieu agit en nous pour être des témoins, comme on avait parlé tantôt des témoins, malgré les circonstances défavorables. La parole de Dieu agit en nous pour être des témoins. Et nous avons reçu vraiment l'Évangile de Dieu. Et je pense que le fait d'évangéliser et de vouloir que d'autres puissent être sauvés, ça commence, je pense, à l'Église, à notre Église locale. L'amour qu'il y a entre nous, le fardeau qu'il y a entre nous aussi pour nos frères et sœurs, nos enfants même qui ne connaissent pas le Seigneur. Je pense que ça commence à l'Église, comme il a commencé à l'Église de Thessalonique, et après ça a explosé vers l'extérieur aussi. Et leur témoignage a été puissant envers d'autres églises-là. Donc, la parole de Dieu agit en nous pour être des témoins malgré les circonstances favorables. Pour finir, j'aimerais qu'on puisse peut-être pas ouvrir vos Bibles parce que j'ai fait un peu un résumé du chapitre 2 de l'épître de Pierre, la première épître de l'apôtre Pierre, le chapitre 2, mais je vais juste lire, j'ai juste pris un résumé de tous ces versets-là. Et ça témoigne. C'est qui on est comme Église maintenant l'Église de Dieu, l'Église de Rosemont. Et, 1 Pierre 2. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin de quoi? Vous connaissez très bien, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois vous n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et que maintenant vous avez obtenu miséricorde, au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Car c'est la volonté des dieux qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence ignorant des insensés. Car c'est une grâce de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, que nous avons été appelés. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas insulte, souffrant ne faisait pas des menaces, mais en se remettant à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés et son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous a guéri. Car nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger. Et quoi? Et le gardien de vos âmes. C'est un peu un langage emprunté aussi d'Ésaïe 53. Hein? Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger. Nous sommes une nation sainte, choisie par Dieu, pour annoncer cette bonne nouvelle, frères et sœurs, de l'évangile de Dieu. Pas notre évangile, l'évangile de Dieu, qui nous a sauvés. En fait, tous ces témoignages-là et toute la façon comment les Thessaloniciens ont accueilli cet évangile-là et comment Paul a pu être un impact pour cette Église-là, se résume à ça, en fait. Là. C'est la puissance de l'évangile dans la vie de ce peuple-là qui n'était pas chrétien, mais qui s'est converti de leurs idoles vers le Dieu vivant. Donc, prions pour que cet évangile puisse être aussi annoncé par notre bouche et par notre témoignage aussi au milieu de notre quartier, au milieu de notre famille, et dans notre milieu, notre travail, et même à l'intérieur de comme j'ai dit tantôt, de notre... Donc, prions. Et je vais demander à mon frère Dom qui puisse prier pour clore.
Prions, Père Céleste. Merci pour un si grand salut que tu as pourvu en envoyant ton Fils unique, ton seul Fils, celui que tu aimes, que tu chéris. Tu l'as envoyé sur cette terre, Seigneur, pour prendre la place de notre condamnation. Merci, Seigneur, pour tant d'amour. Merci, Seigneur, que cette bonne nouvelle, on peut la propager autour de nous, que Jésus-Christ est mort, ressuscité, afin que nous soyons pardonnés. Afin que tu sois pardonné. Fais de nous, Seigneur, ambassadeurs. Fais de nous, Seigneur, tes témoins, comme tu nous demandes dans les Actes des Apôtres. Ô Père Céleste, sauve des âmes. Aide-nous à avoir un fardeau pour les âmes qui meurent sans toi, qui passeront l'éternité en enfer, loin de toi. Ô Père Céleste, donne-moi un fardeau pour ceux et celles, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Sauve des âmes, Seigneur, dans la famille, dans notre quartier où nous habitons, au travail, comme Ronald nous mentionnait. Merci, Seigneur, de ce que nous sommes tes témoins. Et merci, Seigneur, de ce que tu vas parler, que tu nous demandes d'ouvrir la bouche. Au nom de Jésus. Amen.